Mais bonjour à tous. Je me présente donc Vincent Rioux. Je vais vous faire une présentation de quelqu'un qui a appris Python sur le tas il y a quelques années. En fait, j'avais besoin d'un langage assez simple en fait pour travailler sur les aspects de multimédia. Et donc, je suis tombé sur Python et ça a bien fonctionné tout de suite. Bon, alors je vais vous présenter en fait aujourd'hui un petit logiciel quoi, que j'ai appelé Isonoclast. Alors on va voir pourquoi. Je vais essayer de vous expliquer un petit peu pourquoi j'ai choisi Python. Je reprendrai peut-être des points qui ont été déjà évoqués hier. Et puis du coup un petit historique d'implémentation, histoire de voir comment je me suis débrouillé avec ça. Je ne sais pas si ça intéresse tout le monde, mais bon. Voilà, moi ça, je peux vous en parler. Succinctement, un petit point sur l'architecture, et puis je crois quelque chose qui peut intéresser certains, c'était l'idée en fait d'utiliser une base de données comme la ZODB, donc qui fait partie de Zoop, mais sur une application qui serait standalone. Alors je crois que ça, c'était la raison en fait pour laquelle je me suis dit bon pourquoi pas tenter une conférence ici, parce que bon, je ne suis pas un spécialiste ni de Zoop ni de la ZODB, j'utilise vraiment comme quelqu'un qui regarde ces choses-là de loin, mais j'ai trouvé que c'était vachement simple et à mon avis assez prometteur. Et j'essaierai de vous faire une petite démo rapide donc, de ce que j'essaie de faire avec ce truc-là. Voilà. Alors, l'idée à la base d'Isono, en fait, c'est que. Moi, je travaillais à l'époque, en tout cas, plutôt dans la recherche en acoustique musicale et des choses qui ont un rapport avec l'enregistrement sonore. Bon, il se trouve que quand on a fait des enregistrements, par exemple avec des micros binauraux, c'est un peu l'équivalent de la caméra subjective, c'est on met des micros dans les oreilles, on se balade, on fait des promenades et on enregistre en fait ce qu'on écoute. Bon, il y a plein de gens qui font ça, il y a des gens qui font du field recording, donc ils vont enregistrer. Des gens, des musiciens, enfin bon, il y a beaucoup de gens évidemment qui font de l'enregistrement. Le problème, c'est que on se retrouve rapidement avec un grand nombre en fait de bandes ou d'heures d'enregistrement sur un disque dur, idéalement, et qu'il est souvent assez difficile de s'y retrouver, et qu'il y a malheureusement assez peu de choses qui existent qui permettent simplement d'annoter en cours d'écoute des événements sonores qui ont lieu le long de, par exemple, de dizaines d'heures de fichiers audio. Donc je me suis posé cette question-là, je me suis dit bon finalement les histoires d'éditeurs son classiques où on voit une belle forme d'onde et où on peut poser des marqueurs, etc., c'est très bien, mais c'est pas vraiment adapté pour ce que je souhaitais. Moi ce que je souhaitais c'était en fait de pouvoir mettre du texte à des moments précis en fait dans une matière qui serait sonore ou donc après plus tard multimédia. Il y avait aussi dans l'idée évidemment d'utiliser en fait ces annotations en vue de montage éventuellement ou de performance live, c'est-à-dire on joue, on mixe les sons qu'on a enregistrés et si tout a été bien annoté, on peut improviser à partir de ces choses-là. Et je me suis posé la question si tout simplement je pouvais éviter de passer par la forme d'onde, ce qui implique quand même un certain nombre de difficultés de programmation, et puis il y a beaucoup de choses qui fonctionnent déjà comme ça. Donc ce que fait ce programme, c'est que globalement, il doit pouvoir jouer et organiser des fichiers multimédia, un peu à la manière des systèmes d'exploitation classiques, c'est-à-dire on clique sur un son, et puis on peut l'écouter. Bon, ça c'est évidemment très classique. Donc l'indexation à l'aide de marqueurs textuels, ça l'est moins, puisque c'est tout l'objet du travail, de pouvoir structurer les annotations, c'est-à-dire de proposer au moins un certain nombre de champs, un peu comme dans une base de données, des entrées de base de données ou des tableurs, et de pouvoir jouer sur à la fois une représentation arborée, c'est-à-dire quelque chose qui évidemment propose donc une structure hiérarchique de répertoires et de sous-répertoires qui en fait globalement réplique ce qui existe sur le disque dur. Mais évidemment, l'intérêt, c'est de pouvoir aussi transformer cette structure-là en des structures de listes ou de séquences à loisir, donc qui permettent simplement en fait, de modifier complètement la façon dont on se balade dans une base de données hiérarchisée. Donc ça a été utilisé notamment, enfin bon, il se trouve que j'ai travaillé pendant un moment avec quelqu'un qui était en thèse en ethnomusicologie. Donc ça m'a mis vraiment dans des cas d'école en termes d'analyse. Bon, il s'est trouvé que ça permet notamment d'analyser et de faire des recherches textuelles qui, je dirais, justifient certaines analyses, certaines idées. Et puis après, de travailler sur des aspects plutôt de dérochage, de prémontage. Et là, dernièrement, on s'intéresse à l'utilisation de ce genre de truc pour faire du montage de diaporamas sonores. Alors, on a plusieurs projets. Je vous en présenterai très succinctement un des résultats, probablement à la fin. Bon, un schéma très rapide pour voir un peu où ça se situe en fait le programme. En général, donc on a les sources d'enregistrement, des MD, des dates, des cassettes, des supports flash maintenant, enfin tous ces trucs qui sont de plus en plus numériques, ce qui simplifie vachement la phase de transfert, qui permet en fait de transférer donc des données multimédia vers un disque dur. On organise ces données, donc bon voilà, enfin ça vous paraît, je pense, assez enfantin comme histoire, parce qu'il suffit en fait de créer des répertoires et de mettre des fichiers multimédia. Il se trouve que pour les utilisateurs lambda, moi que j'ai rencontré parfois, c'est pas si évident. Déjà, on a des problèmes à ce niveau-là d'organisation des médias. Enfin, c'est des problèmes qui finalement sont dont moi je veux pas m'occuper. Enfin, j'essaye de pas m'occuper de ça. Je sais qu'il y a des gens comme chez Apple, par exemple, leur lecteur multimédia, en fait, se débrouille pour que tout se passe sans que l'utilisateur fasse quoi que ce soit. Et du coup, c'est en général l'occasion aussi de gaspillage énorme à la fois de mémoire disque, et puis parfois d'opérations un peu magiques qui sont parfois un peu douteuses. Enfin bon. Donc moi, de toute façon, je ne m'occupe pas de ça. Je laisse le soin à l'utilisateur de le faire, mais je vais essayer de vraiment lui dire que c'est très important, en fait. C'est-à-dire que la façon dont est rangé au départ le disque dur, l'important, c'est énorme. Et puis, en gros, le programme arrive après. Voilà. Donc lui, il est composé de trois grands, je dirais, groupes de... On peut le scinder en trois grands groupes. Donc, tout ce qui est aspect base de données, donc on va voir un petit peu, l'interface graphique et puis ce qui est appel au lecteur multimédia. Simplement une parenthèse, c'est vrai que le problème du multimédia, c'est que en général, c'est très difficile à porter en multiplateforme parce que chaque ordinateur, chaque plateforme, chaque pros a en général une façon de traiter les entrées-sorties audio et vidéo. Très différent, donc ça c'est un peu une galère pour faire du multiplateforme. Bon, l'historique d'implémentation, ça vous donnera peut-être une idée aussi de ce chemin du mon cheminement dans cette petite aventure. Donc j'ai commencé il y a longtemps, il y a presque 7 ans, un truc comme ça, donc avec ces idées-là. Et au début, je programmais un peu en MATLAB, c'était la seule chose que je connaissais. Et puis, c'est intéressant parce que MATLAB, c'est interprété, c'est un langage donc plutôt pour les ingénieurs, je dirais, traitement du signal, bon, toute l'ingénierie. Mais bon, c'est extrêmement cher d'une part, c'est quand même très orienté pour le calcul, ça manque de certaines facilités de structure de données qu'on trouve dans Python. Et je suis tombé sur Python un petit peu par hasard, en fait, je ne sais plus trop comment. Et c'était la version 1.5 à l'époque. Et c'est vrai que j'ai lu ce qu'avait écrit Guido Van Rossum, mais tout de suite je me suis dit, bah tiens, ça vaut à mon avis vraiment le coup d'aller voir un petit peu plus loin parce que ça semble être très simple, très bien pensé, super, quoi. Enfin, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, super, je vais regarder, quoi. Et c'est vrai qu'en quelques jours, bah, on est capable d'écrire une classe, de commencer à faire du code, d'interpréter, de modifier. Ça, je trouvais ça très étonnant. Et bon, comme je vous ai dit un petit peu, j'avais des velléités donc d'essayer de rassembler du texte à des données qui ne sont pas textuelles, donc audio, vidéo ou photographique. Et à l'époque, je découvrais aussi Emacs, donc je me suis dit, bon, tiens, j'avais vu qu'il y avait un module qui s'appelait Pimax, je vais essayer d'implémenter ce truc-là dans Emacs avec Pimax. Bon, ça a donné quelques résultats, mais c'est vrai que c'était pas évident. Et Mac, c'est quand même difficile à gérer, même si c'est un très beau programme d'édition. À l'époque, je travaillais qu'en XML. Et puis, bon, je me suis mis à TK Inter, qui est l'interface graphique pour Python par défaut, qui date un petit peu maintenant, c'est vrai. Seulement, TK Inter bénéficie quand même de ce qu'on appelle un canvas texte, un widget texte, enfin, assez puissant. Donc, je me suis dit, bon, allez, allons-y. Seulement, il me manquait pas mal de trucs dedans. Donc, j'ai quand même passé du temps à essayer par exemple, de représenter une hiérarchie, un peu la fichier répertoire classique, un navigateur fichier répertoire classique dans un widget texte. Enfin, bon, après, je me suis aperçu que donc, je pouvais intégrer tout ce qui était base de données avec ZoDB. C'est ça que je le dois à un collègue de l'époque qui s'appelle Casper Souren, qui lui travaillait beaucoup sur Python aussi, qui m'a dit, bah, tiens, regarde ça, ça a l'air pas mal. Donc, je ne sais plus quelle version de la ZoDB c'était. Ce dont je me souviens, c'est qu'il y avait assez peu de documentation. Et puis, trouver, en fait, l'enjeu après, c'était de trouver tout ce que je pouvais trouver comme télécommande multimédia pour commander, en fait, à distance des players multimédia du type XMMS, Winamp, MPlayer, VLC ou QuickTime, donc suivant les plateformes. Seconde étape, bon, intégration de l'Unicode, les photos, réécriture du code. Maintenant, le code, en fait, il est chez Tux Family, je sais pas, je suppose que vous connaissez donc cette association pour le logiciel libre, puisque c'est déposé en GPL. Et puis après, je me suis intéressé à la distribution, donc comment compiler du code source pour que ce soit distribuable directement sur une plateforme Windows, donc faire un exécutable, ou sur un Macintosh, donc faire les bundles, les applications .app pour Mac. Donc ça existe, c'est assez simple à faire en Python, mais bon, il y a sur les petites astuces qui ne sont pas faciles à trouver. Et puis, bon, pour ceux qui connaissent un petit peu le domaine du temps réel, du multimédia, du rapport, je dirais, informatique et art, il y a un truc qui s'appelle Pure Data, qui est assez chouette. C'est en fait la version open source de Max MSP, qui d'ailleurs contient, enfin, ça peut vous intéresser, ça, un module pour écrire du Python dans Pure Data. Enfin bon, je passe, je vais pas m'étendre là-dessus. Après, là, je me suis aperçu que je pouvais utiliser la ZoDB. Il y avait des choses que j'avais pas regardées. Et puis le dernier truc là sur lequel je travaille un petit peu, c'est l'intégration de Subversion pour essayer de faire des auto-updates du soft. Bon, c'est quelque chose sur lequel j'ai encore beaucoup de choses à chercher. Alors pourquoi Python? Donc j'ai commencé un petit peu à en parler. Oui, bon, c'est orienté objet évidemment. Interpréter, l'intérêt quand même, c'est que bon, on a des choses justement qui me rappelaient moi un petit peu MATLAB, même mes débuts, des choses qui sont extrêmement pratiques. Donc des terminaux genre ePython, enfin ePython, qui permet de débugger très rapidement, de retrouver un petit peu les trucs à la MATLAB. Éventuellement, même l'interpréter, ça permet de changer le programme en cours d'exécution. C'est-à-dire que le programme est lancé. Si on utilise les commandes reload à l'intérieur du programme, on peut tester ses classes alors que le programme est en train de tourner. On peut tester la modification des classes en même temps qu'on écrit le programme, ce qui est quand même assez, assez chouette quand on est parti dans des trucs voilà, dans l'essai, dans l'erreur, quoi, enfin, dans des méthodes heuristiques. Évidemment, alors le gros truc de Python, à mon avis, c'est que les modules d'extension, il y en a dans absolument tous les domaines et ça change tout le temps. Enfin, il y en a toujours des nouveaux, c'est extrêmement dynamique. Et le côté multiplateforme, évidemment. Ce dont je parlais tout à l'heure aussi à propos de P2App et P2Exe, c'est qu'il est relativement facile en plus de distribuer non seulement évidemment le code source, mais évidemment les versions exécutables du code. Alors, moi, ce que j'ai. Après, ce que j'ai rencontré comme truc sur lequel je suis un petit peu plus circonspect, c'est j'ai trouvé que l'implémentation Unicode, c'était compliqué au final. Enfin, ça générait beaucoup de problèmes, des erreurs, même si, bon, enfin, je sais pas. Enfin, en tout cas, je trouvais que par rapport à ce que l'intuition, enfin, le rendu que j'avais eu avec la programmation Python en général, on pense à quelque chose, on l'essaye et ça marche. une fois qu'on a, on a chopé en fait la logique un petit peu du langage, j'ai trouvé que là, Unicode en général, ça marchait pas quoi. C'était toujours des problèmes. Mais au final, on s'en sort. Mais d'ailleurs, je crois qu'ils vont bosser un petit peu là-dessus parce que c'est un peu compliqué. Pardon. Donc TK, effectivement, c'est l'intérêt, c'est qu'il est, il est bien intégré dans le langage, mais c'est un peu ancien, ça manque un petit peu je dirais, de polissage aujourd'hui. Enfin, c'est par rapport à d'autres concurrents, c'est un petit peu vieux. J'ai pensé un petit peu comme ça. Effectivement, souvent, je me dis, tiens, il manque un case dans Python, pouvoir faire la fonction case avec plusieurs cas comme ça. On est obligé de passer toujours par des if. Moi, je trouve ça un peu dommage. Et bon, je connais pas très bien Ruby, mais d'après ce que j'ai lu, ce serait peut-être moins élégant. Bon, voilà. Et puis j'attends de voir ce qu'ils vont faire avec Python 3000, parce que apparemment, ça va changer peut-être quelques trucs. Ils vont casser la compatibilité, donc ça peut peut-être poser des problèmes. Enfin, bon, c'était des choses très rapides. Bon, comment se présente le soft, en fait? J'ai encore 10 minutes, c'est ça? Hein? 50 minutes? D'accord. Jusqu'à 50. Ah oui, d'accord. Bon, alors faut que j'accélère. Donc ça se présente comme ça. En fait, il y a en gros bah, des menus, des zones d'écriture, des annotations, toc toc. Là, c'est un navigateur de fichiers. Et là, c'est la présentation des listes. Je vais pas m'attarder là-dessus. Donc en gros, l'architecture. C'est des classes d'éléments, des répertoires, des fichiers, des marqueurs. Bon, pour ça, chacun, j'ai des classes séparées avec évidemment l'interface graphique, des classes qui concernent tout ce qui est envoi d'informations, entrée-sortie vers des télécommandes de players multimédia, et puis d'autres classes de fonctions, des espèces de plugins qui permettent de faire différentes choses, découper un son, retailler des images, faire des galeries, faire des recherches dans la base. Bon, ça, c'est simple. Alors voilà, on arrive un petit peu à ce que je vais présenter aujourd'hui. Donc la ZODB. Bon, vous avez probablement tous entendu parler un petit peu de la ZODB. Moi, je connais pas ZOP, par contre, mais j'ai pris uniquement la ZODB dans l'espoir que ça pourrait m'aider à gérer ce type d'information. Alors effectivement, c'est un petit peu magique la ZODB, c'est qu'il faut très peu de code dans. Enfin, il faut rajouter très peu de code dans son code pour tout d'un coup avoir créé une structure de persistance, donc une base de données qui est située sur le disque dur et qui vous permet très rapidement d'interagir avec une structure que vous construisez dans votre programme. C'est très simple et ça s'intègre naturellement dans les classes. Alors, je vous ai mis un petit exemple ici. Donc, en fait, pour définir une classe qui va devenir persistante dans un fichier de base de données sur votre disque dur, il suffit d'importer le module persistant et de déclarer votre classe comme une sous-classe, une super-classe, pardon, de la classe persistante. C'est tout. Après, il faut quand même faire un petit peu attention, c'est que quand vous changez par exemple des valeurs dans cette classe, donc là si j'ai ma variable en fait qui est à 0 début et que je change sa valeur, il faut indiquer en fait avec des espèces de flags dans la classe que les valeurs ont été modifiées. Et donc au prochain commit de la base de données, il faudra changer cette valeur à l'intérieur de la base. C'est difficile de faire plus simple. Et ça marche évidemment pour tout type de classe, je crois. Bon, alors là, c'est un exemple un petit peu plus. Je suis désolé de vous montrer des lignes de code comme ça. Mais en gros, là, c'est simplement comment on ouvre. Je voulais vous montrer simplement comment on ouvre une ZODB, comment on la ferme. Ici, on l'initialise. Donc là, on a quelques variables qui permettent simplement donc de définir le type de store, je sais pas comment dire, d'enregistrement sur fichier au niveau de la base de données. La base, on l'ouvre, toc, on ouvre la connexion, etc. Donc ça, c'est uniquement l'initialisation. Et pour l'ouvrir après, en fait, on dispose d'un dictionnaire. Donc là, j'ai appelé route, qui va contenir en fait les différentes classes ou instances de classes que j'ai définies dans la base de données lors de l'utilisation précédente, en fait, et qui me permet simplement de les récupérer. Donc, par exemple, là, quand je vais ouvrir, si je vérifie donc ma classe est bien en fait dans le dictionnaire de la base de données, si elle y est, à ce moment-là, je l'inclus, et s'il n'y est pas, je la crée. Ce qui me permet de faire simplement un mécanisme d'aller et venu. Et puis, bon, oh, pardon. Je reviens. Voilà. Pour la sauver, pour sauver la base de données, c'est-à-dire sauver toutes les modifications qui ont été faites dans l'ensemble des classes qui sont repérées comme persistantes, il suffit de faire une seule fonction, d'appeler une seule fonction qui s'appelle transaction.commit. Ah oui, j'ai oublié de mettre je suis désolé, j'ai oublié de mettre l'import des modules, mais en gros, il y a deux, trois lignes. Il y a donc File Storage, DB. Ah, c'est ça dont je parlais. File Storage, DB, et puis Transaction. En gros, il y a trois modules qui viennent du package ZODB. Donc pour faire la sauvegarde, il suffit de faire ça. Et puis pour fermer une base de données, ben voilà, il y a quatre lignes de code. Voilà. Alors, il se trouve que bah, moi, au début, j'utilisais pas ça, mais je me suis aperçu que tout simplement, la programmation d'un undo était intégrée dans la ZODB, puisqu'on dispose en fait d'un certain nombre de. Donc, de la possibilité de refaire des undos. Il suffit de dire bah, de faire undo avec le numéro qui correspond au dernier changement. Et ce qui permet assez simplement en fait d'intégrer le undo dans un programme, parce que c'est déjà fait en fait dans la ZODB. Je trouvais ça intéressant. Et puis le compactage qui permet voilà, de la rendre plus compacte. Bon, donc c'est rapidement abordé. Pour moi, il y a des zones qui restent un petit peu mystérieuses, c'est que je souhaiterais en fait être capable d'extraire une partie de la ZODB pour en créer une nouvelle base et de faire des fusions. Enfin, des fusions qui seraient pas exactement des fusions, mais plutôt comme justement des points de montage où j'ouvre une ZODB qui est composée de deux. Et s'il y a des modifications en fait, qui sont faites à l'intérieur du programme qui concernent une des bases de données, il ne va modifier et mettre à jour que cette base de données. Voilà. Donc ça, je sais qu'il y a des gens qui utilisent ça sur Zoop au niveau de serveurs, etc. Mais bon, j'ai pas eu le temps de regarder ça en détail. Pour moi, c'est encore un peu difficile. C'est pas si simple que ce que je vous ai montré auparavant. Et puis les prochains développements, bon, ce serait travailler l'import-export XML. J'ai pas encore eu le temps de m'y mettre. C'est pas compliqué. Peut-être le portage vers une autre interface graphique. Donc là, j'hésite. Une traduction en anglais et puis compléter la doc. Voilà, je vais vous montrer un tout petit peu à quoi ça ressemble quand même. Ouais, j'ai encore 5 minutes. Ok, alors ça ressemble à ça. Donc on a en fait un grand nombre de couleurs, comme vous pouvez constater. Donc il y a un répertoire là qui représente le répertoire racine. Dans lequel bah, j'ai mis un certain nombre de. Le micro, c'est pas. Vous m'entendez bien, non? Ouais, pas terrible. Donc un certain nombre de médias. Donc j'ai des photos par exemple. Voilà. Et puis j'ai des vidéos. J'ai une vidéo. À tout moment, moi je suis en train de regarder une vidéo, je peux me déplacer dedans avec une touche. J'avance, je recule. Et puis, si par exemple, voilà, je détecte quelque chose dans l'image, je vais appuyer sur la touche Entrée, là en l'occurrence, et je vais dire, tiens, à cet endroit-là, j'ai vu quelque chose, je vais la noter. Donc, qu'est-ce que je vois? Je vois la carotte du tabac, et puis une moto, enfin bon, je sais pas, je peux l'appeler comme je veux. Voilà, donc là, je dispose maintenant de champs dans lequel je vais intégrer en fait du texte. Donc c'est des champs bon, classiques, hein, sauf qu'ils sont colorés. Je peux changer leur nom, évidemment. Je peux faire des trucs comme ça. Le petit petite chose qui est un petit peu originale, c'est que en fait, tous ces chants-là. Donc tiens, d'ailleurs, à ce propos, c'est dans la rue Montmartre, tout près de la cantine dont on parlait tout à l'heure. Comme ça, je peux vous montrer où c'est. Voilà, donc là j'ai mis quelque chose qui est lié à un contexte. Vous remarquez que dans l'interface graphique de lecture, je dirais, donc la zone où il y a le surlignement bleu, en fait les champs apparaissent de façon compacte. C'est pas vraiment comme un tableur où les choses sont déjà tracées. C'est des widgets qu'on trouve habituellement. Et en fait, pour obtenir, c'est bête, mais pour obtenir ce genre de comportement, il faut tout écrire à la main parce que dans tes cas, il n'y a pas moyen facilement de faire ça. Donc c'est un peu pénible. D'autant plus que y a la gestion donc d'arbres, etc. Un petit détail. Et puis évidemment, pareil pour le son. Donc je peux envoyer de la musique. Et puis à tout moment, marquer. Voilà, bon, là c'est l'entrée du baryton. Etc. etc. Donc comment marquer en fait des événements, que ce soit dans de la vidéo, dans de l'audio. Et puis une fois qu'on a une base de données qui éventuellement voilà, a des milliers d'entrées, avec des musiques qui sont de toute façon difficiles à écouter ou à comparer, on peut faire un travail plus intéressant de recoupement par des critères qu'on serait donné en faisant de la recherche. Bon, là, si je veux chercher baryton par exemple. Il va me le donner et il me crée une petite liste en fait de résultats. Donc là, l'intérêt en fait après, c'est que c'est ce que je vous expliquais au début, c'est comment alterner en fait d'une vision hiérarchique, donc de choses qui ressemblent vraiment à un disque dur, à des visions où finalement on met tout à plat, on met à plat en fait ce qu'on souhaite mettre en relation. Donc je peux peut-être mettre en relation par exemple cette photo avec l'entrée du baryton, je sais pas, cette autre photo, etc. Bon. Ça c'est une gestion, je dirais, de séquence. Bon, ça permet de faire différentes choses, notamment le plus simple, je vais vous montrer ça vraiment simplement. Ça permet par exemple de faire une petite galerie photo. Ah, là j'ai mis un son, il est probable que ça. Donc si ça a marché. Là, il m'a créé. Je vais tout simplement donner en fait une suite d'éléments, et du coup, après, ce qui est simple, c'est qu'on peut générer par exemple des galeries de photos avec en l'occurrence, ça c'est les petits modules flash. Donc, il suffit après de générer du XML, et puis paf, il crée ça à la volée. Il retaille les photos comme il faut, et pareil pour le son. Après, bon, tout est facilement scriptable. Donc, ça, c'est quelque chose qui est fait du coup très rapidement. Voilà, et puis je peux vous montrer l'exemple aussi donc de ce qu'on appelle des pommes. Alors il se trouve que moi je travaillais puisque l'Espace Culture Multimédia, donc de l'Espace Confluence, qui est une association qui travaille dans le 20e, plutôt à vocation culturelle et artistique. Donc l'Espace Culture Multimédia de Confluence a disparu, faute de subvention, puisqu'on a eu 100% de coupe de budget. Une minute? Oui?
Oui, il y a une question sur IRC, c'est avec quoi tu fais la recherche dans la ZODB? Avec Zcatalog?
Non, j'utilise pas Zcatalog encore. C'est une bonne question parce qu'effectivement, j'ai pas encore exploré ça, mais j'aimerais bien. Là, je le fais à la main en fait. Hein. Je regarde dans mes classes et puis donc là il y a pas vraiment d'algorithme. J'utilise pas d'algorithme rapide en fait d'indexation de la ZODB.
Ok.
J'aimerais bien d'ailleurs, mais je cherche d'ailleurs des gens qui auraient de l'expérience dans tous ces domaines.
Oui, concernant la partie gestion de photos, est-ce qu'il y a une interaction avec les données PTC ou les tags EXIF?
Ouais, j'essaie d'extraire ça. En fait, bah, ça dépend des librairies existantes. Il y a j'utilise Speed évidemment pour la photo là, donc la grosse librairie d'images pour Python. Et il se trouve qu'il y a des modules EXIF par exemple qui permettent d'extraire les. C'est ça hein, dont vous parlez,
Oui,
les
et
tags.
l'inverse de les réintégrer.
Et de les réintégrer, bah, ouais, enfin, non, ça, j'ai pas mis beaucoup d'énergie là-dessus encore, hein, je dois avouer. Mais c'est possible. Enfin, voilà, après, justement, l'idée, c'est de modifier ça au gré des intérêts de chacun. Mais c'est vrai que là-dessus, moi, Je n'ai pas des desiderata particuliers pour le moment.
Encore une question ?
Bonjour. Bonjour. Est-ce que tu as pensé aussi à la gestion des sous-titres ?
Ouais, alors ça marche pas mal. Notamment avec Mplayer, ça marche vachement bien. Quoi. Je ne peux pas vous montrer là, en fait, parce qu'avec QuickTime, ça ne marche pas. J'ai un Linux, hein, mais bon, je ne l'ai pas amené là.
Donc la question, en fait, c'est est-ce que tu fais des extractions de sous-titres, modifications, choses comme ça ?
Alors, extraction, je n'ai pas besoin en général, parce que un sous-titre, pour moi, c'est un fichier du genre SRT. Donc ce que je fais, c'est que je lis une vidéo, je la note, et à la volée, il me crée le fichier SRT qu'il faut, et il me l'affiche en direct, en fait. Ça marche, je l'ai testé à plusieurs reprises, j'ai même fait du sous-titrage de documentaires, en fait, pour le CAS, puisqu'on fait des documentaires à Confluence aussi. Et c'était, c'est assez souple, en fait. Donc j'ai pas, merci.